Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Je suis là pour t'adorer, nous l'avons chanté. Mais cette adoration t'est-elle agréable? Cette adoration est-elle pour toi un parfum de bonne odeur? C'est vrai, Seigneur. L'adoration que tu veux, c'est celle qui est en esprit, mais aussi en vérité. En vérité, de telle façon, Seigneur, vérité exprimée par une bouche sanctifiée, par une vie transformée, par celui qui habite dans le cœur de l'adorateur. Un païen ne peut t'adorer. Un pécheur ne peut t'adorer. Un homme qui aime les choses souillées ne peut t'adorer. Même si les paroles d'adoration sortent de sa bouche, ceci sonne faux à tes oreilles. Ceci, tu le rejettes. Tu veux des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et la vérité n'est pas en nous tant que tu ne nous as pas changés. Père, nous languissons de plus en plus d'être à ton image et de te ressembler, afin de te représenter dans ce monde. Donne-nous d'être des adorateurs en esprit et en vérité, et que la vérité soit en nous. Parle-nous encore, Seigneur. Peut-être que des fois, quand tu parles, Seigneur, c'est dur, semble-t-il. Et pourtant, Seigneur, tu aimes. Tu châties ce que tu aimes. Jamais tu n'as ménagé, Seigneur, tes remarques, tes reproches à tes enfants. Nous ne désirons pas que tu nous ménages de façon ou d'autre, mais que tu nous reprennes afin, Seigneur, que nous entrions par les portes dans la ville. Cette ville dans laquelle, pour laquelle tu dis dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Aide-nous à comprendre ce que c'est que la vérité et à être vérité nous-mêmes. Parle à cette heure, toi, Seigneur. Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 20, versets 20 à 26. Nous ne sommes pas sortis encore du 9e commandement dans Exode chapitre 20. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Depuis passablement de temps, déjà nous cheminons à travers tous ces commandements que le Seigneur a donnés, et plus nous y allons, plus nous découvrons des choses, car là nous avons le fondement même de la vie et de la marche de celui qui est le représentant d'une nouvelle vie, d'une nouvelle société, d'une société telle que Jésus a démontré dans son premier sermon qu'il a fait sur la montagne. Il est venu pour faire, pour former, pour bâtir une nouvelle société avec de nouveaux principes, dans une nouvelle culture, dans la culture du royaume des cieux, et ce royaume commence déjà ici-bas. Cette nouvelle société, il a voulu la faire avec Israël, et en effet, c'était une nouvelle société dans le monde d'alors, le monde païen, aux multiples dieux et aux multiples idoles. C'était une nouvelle société, c'est vrai, qui dépassait toutes les autres, et pourtant, quand même, combien de problèmes n'ont-ils pas eu pour suivre le Sauveur, le Seigneur qui s'était révélé à eux sur la montagne du Sinaï, combien de problèmes et de défaillances n'ont-ils pas eu? Mais la patience de Dieu a fait ce qu'ils ont été, car dans ce peuple, il y a toujours eu un reste qui s'est accroché à la vérité. Et cette vérité a progressé jusqu'à se manifester dans la vérité personnalisée, dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a reposé les bases de cette nouvelle société. dans ce sermon sur la montagne que nous connaissons. Mais nous ne pouvons négliger ce que Dieu a dit dans le passé à la société d'Israël, puisque aujourd'hui, nous sommes, dans un certain sens, l'Israël spirituel, ceux qui sont rachetés et ceux qui sont sous la nouvelle alliance. L'alliance, non pas scellée dans le sang des sacrifices d'animaux, aussi parfait soit-il, mais l'alliance scellée par le sang de celui qui n'a jamais péché, mais qui a offert sa vie pour la rançon de plusieurs. Et nous lisons, toujours dans ce contexte de la vérité, dans ce contexte du contraste entre la vérité et le mensonge, nous lisons dans Luc au chapitre 20, versets 20 à 26. Ils se mirent à surveiller Jésus. Et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi. Qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi. Menteurs. Ils veulent démontrer ce qu'ils ne sont pas avec des intentions mauvaises. Pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Tout ce qu'ils disent là est vrai, mais ils ne le pensent pas. Flatteur! Flatteur! Vous connaissez ces flatteurs qui viennent auprès de vous? Et qui veulent obtenir quelque chose de vous, ou vous embobiner, si je puis dire, vous aveugler, flatter votre ego, flatter votre orgueil personnel. En tout cas, il n'y a personne qui soit comme vous. En tout cas, tu es mon papa. Quand on me dit ça, je dis attention, qu'est-ce qui va venir? En général, c'est Mandele Pesa Bongo. Tu es mon papa, en tout cas, tu ne peux... Qu'est-ce que je ferais sans toi, en tout cas, vous, je ne sais pas quoi encore, et toutes les flatteries, attention! Quand on vient comme ça vers moi, je dis attention. N'y crois pas. Vous savez, quand quelqu'un veut flatter, on le sent. On peut certaines fois vous dire de gentilles choses, et ça vous encourage certainement, et Dieu n'est pas contre. Mais on sent quand c'est sincère ou quand c'est de la flatterie. Si vous ne savez pas discerner entre la flatterie et la vérité, eh bien vous êtes des pauvres gens. Vous devez encore grandir. Fermez vos oreilles à la flatterie. Regardez tout ce qu'ils disent. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Vous serez jugés par vos propres paroles, car ce que vous dites est vrai, mais vous ne le pensez pas. Hypocrite. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur dit, « Ah Seigneur, merci, tu ne te laisses pas abuser par les flatteries, tu ne te laisses pas abuser par l'apparence, car tu connais le cœur de l'homme, et rien n'est caché devant lui. » Si Jésus est dans notre cœur, nous discernerons, et nous serons capables de voir ce que l'homme naturel ne peut voir. Il leur dit simplement, montrez-moi un denier. La pièce, l'argent que vous utilisez pour le commerce. Il le prend et il dit, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ils répondirent de César. Alors c'est simple. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne s'est jamais opposé contre le gouvernement romain, quoique c'était un gouvernement de despotes, colonialistes, durs et méchants, païen et tout, Jésus n'a jamais appelé à la rébellion contre l'autorité établie. Tout ce qu'il a dit lorsqu'il était devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Autrement, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Jésus a toujours respecté l'autorité. Jésus n'a jamais appelé les masses à la révolte contre l'autorité ou à prendre les armes et faire valoir leurs droits, entre guillemets, avec la force et les armes et le sang versé des autres. Mais il est appelé, il est venu pour appeler un royaume, pour former une société nouvelle, voilà, qui fasse différence avec l'autre société corrompue. Il est venu pour jeter les bases du royaume des cieux qui commence dans le cœur des hommes. Dans ces versets, nous avons un exemple navrant de l'esprit de mensonge, de l'esprit de fourberie que peuvent manifester des religieux. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ils se donnaient l'allure d'être de bonne foi, est-il écrit. Ils se donnent l'allure d'être des bons chrétiens parce que tous les dimanches, ils sont à l'église. Ils se donnent l'allure d'être des bons chrétiens parce qu'ils se lèvent et chantent des cantiques, parce qu'ils parlent en d'autres langues, parce qu'ils ont le langage de Canaan, comme on dit. Oh, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé. C'est toujours Dieu dans leur bouche, c'est vrai. L'apparence. Mais qu'en est-il à l'intérieur? Hypocrisie, mensonge, ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais on ne trompe pas Dieu. Il voit jusqu'au fond des cœurs, des âmes et des consciences. Il connaît et sait. Il sonde. Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Il connaît les intentions les plus cachées, les plus dissimulés, et rien n'est caché à ses yeux. Le mensonge est le chemin du lâche. C'est le chemin du refus de la responsabilité. C'est le chemin du fourbe. Le mensonge, c'est le chemin du calculateur. Le mensonge, c'est le chemin du cupide. C'est le chemin de la facilité. C'est le chemin du manque de courage. C'est le chemin de la peur, le mensonge. C'est le chemin de la guerre. Voilà ce que c'est que le mensonge. Vous avez peur de dire la vérité. Vous avez peur de reconnaître votre responsabilité. Vous voulez fuir votre responsabilité. Ça, c'est la chair qui n'est pas encore régénéré. Tout le monde peut connaître la crainte et l'autodéfense intérieure qui se manifeste devant le problème. Mais l'enfant de Dieu prend courage car il sait que son Dieu est avec lui. Le mensonge est un grand problème dans notre société. L'exagération est un mensonge. Une demi-vérité est un mensonge. L'hypocrisie, paraître ce qui n'est pas, c'est un mensonge. L'exagération. N'avons-nous pas vu même des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, exagérer et gonfler les bénédictions qu'ils ont reçues? N'avons-nous pas entendu des prédicateurs raconter des histoires dont une petite partie est vraie et tout le reste ajouté n'est pas vrai? Et ils prétendent mentir pour glorifier Dieu. Est-ce que Dieu sera glorifié? Moi, j'en ai connu des comme cela. Qui racontent une histoire. Et malheureusement, quelqu'un dans l'auditoire sait et connaît l'histoire. Et quand il la raconte, celui qui la connaît, qui était là, ne la reconnaît même pas. Et à la fin, il parle à l'autre et lui dit, Mais dis donc, mais je savais pas, pourtant on était ensemble. Mais oui, tu étais là, tu te souviens pas? Ah, c'est cette histoire-là? Voilà. Vous pouvez pas vous rendre compte le nombre de prédicateurs, de missionnaires, je dis bien, qui racontent des histoires fabriquées pour intéresser les autres afin que les autres donnent de l'argent. De l'argent pour les projets. De l'argent pour aider la cause. Pour nourrir les orphelins. Que sais-je encore? Alors les gens pleurent. Oh là là, la souffrance. Oui, c'est vrai. Oh, ya, ya, ya. Il y a assez de souffrances réelles pour ne pas vouloir l'augmenter par des choses qui sont des mensonges. La souffrance est dans notre monde. Contentons-nous à parler de la réalité plutôt que de gonfler la réalité et la rendre irréelle, simplement pour toucher les sentiments et que l'argent tombe dans la caisse. Est-ce que Dieu n'est pas propriétaire de tous les biens de la terre? Est-ce qu'il ne peut pas nous donner au-delà de tout ce que nous avons besoin? Avons-nous besoin d'utiliser le mensonge pour arriver à nos fins et pour arriver à accomplir nos projets? Ces projets que nous avons lancés, est-ce que c'est pour nous personnellement? Tirons-nous une gloire de ces projets s'ils réussissent? Eh bien, si nous en tirons une gloire, ils ne vont pas réussir. Et même s'ils réussissent, ils ne seront pas pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que basés sur le mensonge. Dieu ne se glorifie pas à travers le mensonge. Dieu se glorifie à travers la vérité. Frères et sœurs, apprenons ces choses. Exagérer, gonfler les choses, exagérer, raconter ce qui n'est pas. Je ne sais pas ce qui se passe en vous, mais en tout cas en moi, quand je commence à exagérer, il y a quelque chose qui ne va plus là-dedans. Ah, parce que ça m'est arrivé, oui. Je suis un homme comme vous, il ne faut pas croire. Mais ne résistez pas au Saint-Esprit lorsque vous sentez ça dans votre cœur. Ce que tu dis là est dépassé. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Reviens dans la vérité. Reviens dans la vérité. Et cédez à la voix du Saint-Esprit. Et alors Dieu vous bénira. Mais si vous maintenez l'exagération, cela est mensonge. Il n'y a pas de bénédiction. La dissimulation est mensonge. La fourberie est mensonge. Dans le psaume 52, versets 4 à 6, il est dit: ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. En tout cas, psaume 52, 4 à 6, marquez ça dans votre Bible. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Sachons bien qu'une fausse promesse non honorée est un mensonge. Ici, on a souvent l'habitude de dire, quand quelqu'un dit « Bon, je ferai mon possible, peut-être, on verra. » Quelque temps après, on vient vous dire « Tu as promis. » Non, ça, c'est pas une promesse. Si on dit « On verra », ce n'est pas une promesse. Vous m'entendez? Si on dit « Je vais essayer », ce n'est pas une promesse. La promesse est d'essayer. Mais quand on essaye, cela ne veut pas dire qu'on réussit. Alors ne dites pas que c'est une promesse. Il y a des nuances. Combien de fois on est venu vers moi? « Pasteur, vous avez promis. Qu'est-ce que j'ai promis ?» Alors il explique. « Mais non, je n'ai pas promis. J'ai dit que j'essayerai. » J'ai dit que je verrai ce qu'on peut faire, mais je n'ai pas promis. Nuance. Il est nécessaire de corriger là, parce que l'habitude, je la connais au Congo. Mais quand on a promis, je ferai ceci, je ferai cela, cela suppose que toi-même, tu as considéré que tu étais capable de faire la chose. Maintenant, tu dois. C'est un engagement. Tu dois remplir ton engagement. À supposer que subitement, à cause de circonstances diverses, tu ne peux pas remplir ta promesse. Tu vas vers celui-ci. Écoute, pardonne-moi. Je pensais que, mais je me suis trompé. La prochaine fois, je ferai plus attention avec mes engagements. Car une promesse non honorée devient un mensonge. On trouve le mensonge aujourd'hui dans notre société au niveau de la politique, au niveau de l'industrie, au niveau du commerce, au niveau de la publicité, que de mensonges. La publicité, mais il n'y a rien de plus menteur que ça. Quand on voit sur les grandes autoroutes, du moins maintenant ça devient interdit, mais autrefois, ces grandes affiches qui vantent la qualité d'une cigarette, et puis qu'on fait croire au monde de beaux jeunes gens, de belles jeunes filles, une belle nature, et on vante la cigarette, mais c'est menteur! On vous montre pas ces jeunes gens après quand ils sont à l'hôpital, et qu'on doit les opérer, et qu'ils ont les poumons complètement pollués, et rongés par le cancer des fumeurs, ou la gorge rongée par le cancer du fumeur, on vous les montre pas à ce moment-là. Et la souffrance qu'il y a. Ah, le mensonge dans le monde. Le mensonge dans les relations familiales. Cette famille est divisée dès que le mensonge est là. Et le mensonge dans la religion. Ah, c'est bien triste. Là, c'est le pire des mensonges, si je puis dire. Quand je parle de religion, je parle du christianisme. Je ne m'inquiète pas des autres religions. Mais dans le christianisme, nous avons tellement, tellement de différentes, entre guillemets, églises, de différents enseignements, de différentes façons de croire, de pratiquer, entre guillemets. Il y a des religions menteuses. Il y a un christianisme menteur qui parle de Dieu, mais qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Un christianisme qui enseigne des préceptes d'hommes, qui n'obéit pas à ses commandements. Il y a des hommes qui exigent des autres ce qu'eux ne font pas. Attention, pentecôtistes, puisque c'est devenu comme, disons, une partie du protestantisme qui s'appelle pentecôtiste. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais rien d'autre, j'ai jamais été ni protestant, ni catholique, ni n'importe quoi, j'ai toujours été pentecôtiste. Bon, si vous pouvez vous vanter de cela, moi, je peux me vanter de cela, si c'est une raison de se vanter. Moi, je me vante plutôt d'être en Jésus-Christ et sauvé par grâce. Je n'ai pas de raison de me vanter du pentecôtisme. Bien souvent, le pentecôtisme aujourd'hui, alors qu'autrefois, il faisait honte, honte aux gens bien. Quand on était un pentecôtiste, autrefois, quand j'étais jeune, très jeune, eh bien, il y avait un opprobre à payer. Il y avait un opprobre, on vous rejetait comme étant un peu piqué, un peu fou. Mais aujourd'hui, c'est devenu populaire. Populaire. De telle façon que, si vous ne portez pas cette étiquette, vous êtes regardé comme un sous-spirituel, un sous-religieux. Écoutez, mes frères, ce n'est pas le pentecôtisme qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Et je me vante d'être sauvé par Christ et d'appartenir à Christ et qu'il soit mon sauveur et qu'il ait pris mes péchés et je me glorifie dans la croix de Jésus-Christ. Car il y a un pentecôtisme menteur autour de nous. Dans notre monde d'aujourd'hui, on croit au miracle, on croit au prodige, on croit à la manifestation de Dieu, on croit aux dons spirituels et de prophétie, et on y croit, c'est bien. Mais comme on le veut absolument, on le fabrique. On fabrique des prophéties, et on devient faux prophète. On fabrique des miracles, quand il n'y a pas de miracle. On fabrique des révélations contraires à la parole de Dieu. Quel genre de pentecôtisme est cela? C'est un pentecôtisme menteur. Et ça, nous n'en voulons pas. Que Dieu me garde de fabriquer quoi que ce soit. Que Dieu me garde de vouloir manipuler l'esprit. Il ne se fait pas manipuler, croyez-moi. Mais on peut manipuler l'esprit des hommes. Ô Dieu, combien je souhaite qu'un jour ton esprit descende à tel point sur cette assemblée, qu'il y ait là des miracles, des prodiges, des aveugles qui voient la puissance de Dieu qui se manifeste, le péché qui s'en va, les consciences qui sont transformées, bouleversées. Que Dieu me garde de faire quelque chose qui soit hors de ce qu'il veut, de ce qu'il pense. Je crois à ce que dit la Bible, à l'onction d'huile telle que nous l'enseigne la parole de Dieu. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens loindront d'huile au nom du Seigneur et prieront pour lui, et il sera guéri. Et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. L'onction d'huile était sûre, non pas sur les païens. Dans l'Ancien Testament, elle était déversée sur les rois, sur les serviteurs de Dieu qui étaient appelés au ministère. Et le prophète était appelé à verser l'huile sur cet homme-là pour démontrer le choix de Dieu sur un homme de Dieu que Dieu reconnaît comme étant sien, comme le jeune David, tout jeune qu'il était. Ce n'est pas ses frères aînés, les grands de taille, les beaux de figure. Non, c'est le petit jeune qui gardait le troupeau dans le désert. Dieu a dit, je l'ai choisi, je connais son cœur. Voilà d'huile. Il y en a un dans la sagesse des hommes qui a dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mieux vaut un jeune qui veut marcher dans la lumière, dans la vérité, qu'un vieux tordu qu'on n'arrive plus à redresser. Et si ce jeune marche avec Dieu et vit près de Dieu, frères et sœurs, il fera des exploits, malgré peut-être des problèmes qu'il aura, mais il fera des exploits. Bien souvent, bien trop souvent, les vieux nous ont montré un piètre exemple. Elles n'ont pas été des modèles tels que Dieu voudrait qu'ils soient. Dieu est capable de susciter quelqu'un quelque part que personne ne connaît. Et qu'on va d'abord sourire à cause de sa jeunesse. Mais Paul disait, que personne ne méprise ta jeunesse. Il est vrai qu'un jeune ne restera pas jeune toute sa vie. Et qu'un jour, il aura des cheveux blancs. Mais il pourra dire avec fierté, alors que j'étais tout jeune, Dieu m'a appelé et je suis resté ce que Dieu a voulu que je sois. Frères et sœurs, ne soyons pas des bornés, quoique nous venions à l'église de la borne. Mais la borne, que représente l'église de la borne, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. À partir de cet endroit, je laisse une marque, et de cet endroit-là, je m'en vais monter dans la gloire. Je m'en vais monter, et toujours monter, que celui qui se sanctifie encore. Frères et sœurs, nous voulons un christianisme, mais pas un christianisme menteur. Nous voulons une Pentecôte, mais pas une Pentecôte menteuse. Ni une Pentecôte de manipulation. Et nous ne sommes pas pentecôtistes. Religion. Nous sommes pentecôtistes expérience. Avez-vous l'expérience? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et quel est l'Esprit qui vous anime? Je vous le demande un peu. L'Esprit du monde ou l'Esprit de Dieu? L'Esprit de vérité ou l'Esprit du mensonge? Trop souvent, nous avons un christianisme qui enseigne des préceptes d'hommes, qui n'obéit pas à ses commandements. Et nous avons trop souvent le triste exemple d'hommes qui exigent ce qu'ils ne font pas, de prédicateurs, dits pentecôtistes, qui exigent des autres ce qu'eux n'exigent pas d'eux-mêmes. Dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 4, il est dit, Jésus parlant à la foule et ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils les hommes qui vous prêchent. Ces hommes qui vous enseignent, ils vous enseignent la vérité. C'est ça qu'il a dit. Ils vous enseignent ce que Moïse a enseigné et ce qu'il a dit d'enseigner. Ce qu'ils vous enseignent est juste. Faites ce qu'ils vous enseignent. Vérifiez par la parole de Dieu si ce qu'il vous est prêché est juste. Vérifiez, revérifiez ce qu'on vous dit si c'est juste. Vérifiez ce que je vous prêche, moi, Jacques Vernot. Si c'est juste, et si c'est juste, faites-le. Mais, Jésus ajoute ceci, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Les pharisiens et les scribes avaient rendu la porte des royaumes des cieux si étroite que personne ne pouvait rentrer. Et puis chaque jour, ils jouaient leur petit cinéma, entre parenthèses. Ils portaient de longues robes. Ils allaient dans les carrefours publics et ils marchaient avec beaucoup de respect comme cela. Et tout le monde s'écartait sur leur chemin avec de grandes barbes blanches, beaucoup de dignité. Tout d'un coup, vous les voyez s'arrêter et commencer à prier, là au milieu de la foule. Tout le monde pense, oh, ce sont des hommes formidables. Ce sont des hommes formidables. L'allure extérieure, en tout cas. Mais Jésus a dit, ce sont des sépulcres blanchis. L'extérieur est propre, l'extérieur a belle allure, mais l'intérieur est rempli de corruption. Faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils sont menteurs. Jésus s'est toujours élevé contre l'hypocrisie des religieux menteurs qui disent, mais ne font pas. Écoutez, là c'est une responsabilité, croyez-moi. Vous tous qui prêchez, moi qui prêche, vous qui prêchez, c'est une responsabilité. Nous pouvons prêcher et très bien prêcher, mais est-ce que nous faisons ce que nous disons aux autres de faire? Posez-vous la question quand vous prêchez. Vous jeunes gens qui êtes si plein de feu et qui vous voulez prêcher à votre groupe ici et là, et vous voulez être appelé berger, pasteur, tout ça, tout ça. L'autre jour, j'étais un peu dérangé. J'ai reçu une lettre d'une de nos cellules, et il agit comme monsieur le pasteur, et il signe son nom mettant berger en dessous. J'étais pas content quand j'ai vu ça. Il se prend pour quoi? Peut-être qu'il est là, et bien tu l'entends. Voilà. Frères et sœurs, attention! Ce que nous voulons voir, c'est la démonstration réelle de ce que vous êtes. Et ce n'est pas toi qui vas rendre témoignage de ce que tu es. C'est l'Église de Jésus-Christ, ce sont les fruits qui crieront. Les fruits qui sortiront de ta vie, qui crieront. Et qui diront qui tu es. Je suis fatigué de ces gens qui cherchent à se lever eux-mêmes. Je suis fatigué à ces gens qui veulent se montrer comme étant excellents et indispensables. Je suis fatigué de ceux qui veulent s'accaparer de titres ou je ne sais quoi. Nous sommes que des esclaves. Par choix. Des serviteurs. Il nous dit va, nous allons. Il nous dit viens, nous venons. Il a autorité sur nos vies. Et nous faisons que de répéter ce qu'il nous dit de dire. Combien de prétendus hommes de Dieu n'avons-nous pas vu est connu de ce genre. Malheureusement, quand on pense aux années passées des hommes que j'ai connus, qui avaient un grand ministère, une parole merveilleuse, Chaque fois que j'entendais ces paroles et que j'allumais ma radio lorsque j'étais sur les autoroutes aux États-Unis, j'écoutais avec délice ces messages, un emprunt de l'onction de l'Esprit et de cette vérité annoncée avec tant de force et de vérité. Et j'applaudissais, mon cœur était en communion avec eux. Mais voilà! Bientôt c'était la chute spectaculaire. Bientôt c'était la honte. Bientôt c'était terrible. Et avec amour, les frères se sont approchés, ont dit, bon, laisse le ministère pendant 2 ans, 3 ans et cherche à te réhabiliter. Une telle chute est la preuve d'une chute intérieure qui n'était pas connue avant, mais nous voulons t'aider. Non, c'est impossible. Mon ministère va être terminé. Je vais continuer. Je pars indépendant, parti indépendant. Continue à prêcher, continue à attirer des foules, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu va dire en ce jour, qu'est-ce qu'il va dire? Sachez une chose, Dieu ne se repent pas des dons qu'il a donnés. Ces hommes ont commencé très bien. Ils ont eu l'onction de l'Esprit. Ils ont eu la connaissance. Ils ont eu la bénédiction. Ils ont eu la grâce. Ils ont eu le ministère. Mais qu'est-il arrivé? L'orgueil est venu dans le cœur. On s'est vu excellent. L'orgueil est venu dans le cœur. La suffisance. Je me souviens un jour, lorsque j'ai vu un de ces hommes-là, mon esprit était troublé au-dedans de moi. Par l'attitude de l'homme. Rien que l'attitude. Mon esprit était troublé. J'étais dérangé dans mon cœur, alors que personne ne savait rien. Avec ma femme, on s'est dit, en tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre. Eh oui. Frères et sœurs, attention, je vous en supplie. Dieu a donné, Dieu ne reprend pas. Des fois, nous disons, mais pourquoi? On apprend, il a fait ceci, il a fait cela, mais Dieu le bénit. C'est pas Dieu qui le bénit. La parole est bénie. Parce que la parole reste la même. La parole ne change pas. Et ils savent assez pour prêcher la vraie parole. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà ce que Jésus disait aux pharisiens, aux scribes. Ne faites pas ce qu'ils font. Des âmes sont sauvées, gloire à Dieu. Des corps sont guéris, gloire à Dieu. Quand ils viendront devant le maître, ils diront, Seigneur, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prêché en ton nom. De grandes foules sont venues, ils se sont convertis en ton nom. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tremblons, nous qui prêchons l'évangile. De vivre, nous devons vivre ce que nous disons. Nous devons nous l'appliquer à nous d'abord, avant d'exiger des autres. Nous devons aussi être compatissants et pleins d'amour, et non pas comme les pharisiens et les scribes qui avaient rendu la porte du royaume des cieux tellement étroite qu'il y en avait très peu qui arrivaient à rentrer. Oui, ils ont été bénis avec un véritable ministère puissant, mais l'orgueil les a égarés et les a entraînés. La cupidité est entrée dans leur cœur, l'argent, la position, la gloire. L'impureté est rentrée dans leur cœur, la convoitise de la chair. Je me souviens, j'ai connu un pasteur qui était vraiment béni en Louisiane. J'ai prêché dans son église et Dieu le bénissait. Il avait 3-4 cultes chaque dimanche remplis. Et quelle chute! Et quand j'ai appris les détails de sa chute, j'ai dit, mais c'est pas possible! Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme reste l'homme! Et il a besoin de la grâce tous les jours. Il a besoin de se souvenir qui il est tous les jours. Il a besoin de croire dans son Sauveur et non pas en lui-même. Méfie-toi de toi-même et que ta chair soit crucifiée. Ils avaient des gardes du corps multiples. Ils avaient des gens qui couraient pour eux. Jamais ils touchaient le volant de leur voiture, leur chauffeur les conduisait. Ils avaient de belles voitures, pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Une bonne maison, pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Mais ça, ce n'est pas le ministère. Ça, c'est un plus que Dieu donne s'il le veut. Car Dieu est bon pour ceux qui le servent. Mais quand l'impureté, quand la cupidité rentre dans le cœur, l'argent, quand l'injustice rentre dans le cœur, quand la propre justice rentre dans le cœur avec la convoitise, Jésus dit non! N'oublie pas qui tu es, qu'un pécheur sauvé par grâce. Je peux bénir la parole que tu prêches. Je peux bénir ton ministère et que des miracles et des prodiges se passent à travers ton ministère. Mais souviens-toi, c'est pas toi qui guéris. Souviens-toi, c'est pas toi, à cause de tes mérites, que l'aveugle voit, que le sourd entend, que le paralytique marche, que le possédé est délivré, et même que le mort ressuscite. Ce n'est pas à cause de toi. Mais j'ai décidé de ne jamais travailler sans utiliser celui que j'ai appelé. Ah. Ce n'est pas un ange qui descend dans ce monde pour toucher les malades. Ce n'est pas un ange qui est manifesté sur les places publiques à prêcher aux foules. Non! Parce que Dieu a décidé d'utiliser les hommes qu'il a rachetés pour proclamer sa bonne nouvelle. Mais n'oublions pas d'où il nous a sortis. Dès que la convoitise, dès qu'on l'admet, on l'admet dans son cœur, la justice, la propre justice, vous savez, des fois il y a ces prédicateurs qui sont comme, pour ainsi dire, adulés par ces femmes célibataires dans l'église. Adulées par ces jeunes filles dans l'église. Elles sont là derrière lui. Oh, pasteur, ceci. Oh, je peux avoir un entretien avec vous. Oh, ceci. Attention! Oh, j'ai des problèmes dans ma vie. Oh, j'ai des problèmes. Ou alors ces femmes qui ont des problèmes avec leur mari à la maison. J'en connais beaucoup de ces histoires-là. Elles viennent vers le pasteur. Oh, pasteur, écoutez, il faut m'aider. Vous savez, avec mon mari, ça va pas, il me comprend pas, mais vous me comprenez. Ah! Dès l'instant qu'une femme vous dit cela, vous lui dites, sœur, venez avec votre mari, on parlera ensemble. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Et faites comme nous, dans vos bureaux, mettez des portes vitrées. Nous avons un ministère à protéger. Nous avons un travail à garder. Nous avons un témoignage à garder. Le manque de sagesse a ruiné plus d'un ministère, sans que pour cela il y ait eu véritablement chute. Mais à cause du manque de sagesse, on a raconté des choses incroyables. Et c'est pour cela, toi, serviteur de Dieu, attention, paye tes dettes. Tu as emprunté l'argent, rends-le. Tu dois jeûner 2 semaines à cause de cela, jeûne. Mais ton ministère vaut plus que l'argent. Luc chapitre 11, verset 39. Jésus disait, « Vous, pharisiens, il s'adresse à ceux qui représentent le modèle de la société religieuse d'alors. Ceux qui enseignent, ceux qui se tiennent devant, ceux qui sont supposés être des modèles. Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Voilà. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. C'est-à-dire, vous placez l'accent sur l'apparence extérieure. Un beau vêtement, une belle robe, une écharpe d'une certaine couleur. Oh, les pièges! Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné que ses serviteurs qui servaient dans le tabernacle, ils devaient porter un certain vêtement sacerdotal. Mais nous ne voyons pas ça dans le Nouveau Testament. Nous ne voyons pas ça dans le Nouveau Testament. Si Jésus l'avait fait, je l'aurais fait. Jésus ne l'a pas fait, je ne le ferai pas. Pourquoi vouloir me distinguer des autres par l'extérieur? Que Dieu m'aide à me distinguer des autres par l'intérieur. Que l'image de Jésus-Christ émane de ma personne, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mon maintien, dans mon témoignage, dans ma façon de vivre. Oh Seigneur! Et même Si je dois être pauvrement vêtu, je resterai beau à tes yeux si je te représente dans le monde. Et ceux qui viendront parler avec moi seront attirés, non pas par l'extérieur, mais par ce qui émane de moi et qui n'est pas de moi, mais qui est d'en haut. C'est pour cela, donne-moi plus des valeurs vraies, des valeurs qui ne périssent pas. Le vêtement s'use, la chemise se déchire, la robe devient sale, mais ce que Dieu donne demeure et s'enrichit chaque jour. Mettons nos yeux dans les vraies valeurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Trop souvent, Seigneur, nous sommes menteurs. Menteurs dans notre façon d'être, dans notre façon de nous comporter. Nous voulons représenter ce qui n'est pas. Nous voulons être, Seigneur, ce que nous ne sommes pas. Et nous pensons vouloir le fabriquer par une façon d'être, par un comportement, par des vêtements. Et nous exigeons des autres tellement souvent ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Seigneur, 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 s'il te plaît, continue ton œuvre dans nos cœurs. Seigneur, ne te lasse pas, ne te lasse pas, mais nous avons besoin de toi, Seigneur, de plus de toi, de plus de ta grâce, de la vraie notion de la véritable grandeur et de la vérité. Seigneur, s'il te plaît, œuvre dans nos cœurs par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ces choses à chacun de nous, à notre niveau. Tu n'as pas appelé chacun ici à être des prédicateurs, mais tu as appelé chacun à être des témoins. Que nous soyons des témoins pour le royaume des cieux. Dieu t'a parlé, mon frère, ma sœur. Tu te reconnais peut-être dans un domaine ou dans un autre. Ne peux-tu pas t'approcher de Dieu et dire, Seigneur, parfais ton œuvre. Seigneur, parfais ton œuvre dans mon cœur. Seigneur, je ne suis pas encore le genre de personne que tu voudrais que je sois. Seigneur, s'il te plaît, continue ton œuvre dans mon cœur. Ne te lâche pas, permets que je sois conscient des vraies valeurs, conscient de ce que je dois être, conscient de mon comportement devant toi. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour être à ton image, pour te représenter dans ce monde. Seigneur, pour exiger de moi-même ce que j'exige des autres, pour être un exemple. Seigneur, je critique les autres, je vois leurs défauts, je vois la paille dans leurs yeux, mais je ne vois pas la poutre qui est dans le mien. Seigneur, pardonne-moi, enlève cet esprit de jugement, et que mon jugement soit sur moi-même, au lieu de tout le temps se porter sur les autres, afin d'être à ton image. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis, et je te demande de m'aider, Seigneur, de m'aider à te ressembler, de m'aider à être ton image. Bien souvent, je porte des jugements sur les autres, sévères, et mes jugements sont certainement justes, mais je suis très indulgent envers moi-même. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux être un enfant du royaume. Travaille dans mon cœur par ton esprit. Ô Jésus, Jésus, devant toi je viens. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Si vous désirez un entretien, parleur, c'est tout. C'est tout. Oh, combien je voudrais que vous grandissiez devant le Seigneur, que vous vous perfectionniez dans votre vie, chacun pour lui-même. Père.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.